France Culture.
Réplique, que devient l'Europe centrale avec Jacques Rupnik et Marc Semaux. En 1956, au mois de septembre, le directeur de l'agence de presse de Hongrie, quelques minutes avant que son bureau fût écrasé par l'artillerie, envoya par Telex dans le monde entier un message désespéré sur l'offensive russe déclenchée le matin contre Budapest. La dépêche finit par ces mots « Nous mourrons pour la Hongrie et pour l'Europe ». Ainsi commence l'article de Milan Kundera, Un Occident kidnappé, la tragédie de l'Europe centrale, publié dans la revue Le Débat en novembre 1983. Cet article a connu un immense retentissement. Nous sommes nombreux à pouvoir dire qu'il a changé notre façon d'appréhender le monde. Il nous a ouvert les yeux. Il nous a révélé, alors que, même devenus antitotalitaires, nous raisonnions en termes exclusivement politiques l'existence de l'Europe centrale et de ce que représentait pour cette Europe l'assujettissement à la Russie. Nous sommes en 2025 et nous nous demandons perplexes ce qui reste d'une telle communauté de destin. Face à l'impérialisme poutinien qui se déchaîne en Ukraine, l'Europe centrale semble plus désunie que jamais. Les nations qui la composent ne parlent pas d'une seule voix. Elles réagissent en ordre dispersé. Qu'est-ce qui se passe? Pour nous aider à y voir clair, j'ai invité deux grands connaisseurs de cet univers proche et complexe, Jacques Rupnik et Marc Semaux. Et je commencerai évidemment par la Hongrie. Ce pays que dirige Viktor Orban depuis 2009 commémore-t-il encore l'invasion soviétique de 1956 et si oui, quelles leçons en a-t-il tiré? Jacques Rupnik.
La Hongrie commémore 56 tous les ans, mais sur le mode rupture avec le communisme, rupture avec cet héritage-là. Et donc ça a une fonction de, ça avait une fonction aussi de politique intérieure, puisqu'il y a eu pendant une longue période au pouvoir un parti socialiste qui était un héritier du parti communiste. Donc c'était une façon à la fois de commémorer la tragédie de 56, mais aussi avec un usage de politique intérieure. Par contre, l'autre héritage de 56, qui était la résistance à l'impérialisme russe. La phrase « Nous mourrons pour la Hongrie et pour l'Europe », ça par contre, cette phrase-là a été occultée, oubliée, parce que la Hongrie, aujourd'hui, n'a aucune envie de mourir pour l'Europe. Ceux qui utiliseraient cette phrase aujourd'hui, c'est sans doute les Ukrainiens, et probablement les Polonais. Si on a entendu le discours du Premier ministre polonais Donald Tusk au Parlement européen cette semaine, puisqu'il a pris la Pologne a pris la présidence de l'Union européenne. Donc il disait en gros cela. Il utilisait même l'hymne polonais qui commence non, la Pologne n'est pas morte puisque
la
nous
Pologne
sommes,
n'a pas encore péri.
Puisque la Pologne n'a pas encore péri puisque nous sommes vivants. Eh bien il a utilisé ça pour l'Europe. L'Europe n'est pas encore morte puisque nous sommes là pour la défendre. Ça, c'est exactement l'inverse de Viktor Orban. Aucune envie de mourir pour l'Europe. Il est plutôt dans l'accommodement avec Poutine. Cette guerre n'est pas notre guerre.
Cette guerre n'est pas notre guerre. Alors, justement, Marc Semaux, poursuivons sur cette question hongroise. Y a-t-il des résistances dans la société hongroise au discours de son dirigeant? y a-t-il en Hongrie des voix qui se font entendre et qui disent « Attention, nous avons été victimes de l'expansionnisme russe et pas seulement soviétique, et il faut en tirer toutes les leçons ». Marc Zemmour.
Oui, il y en a, et notamment dans les villes, il y a une opposition à Viktor Orban qui se structure. Alors c'est une opposition souvent ambiguë, où par exemple là, à des hommes qui montent, Peter Magyar, fédère autour de lui des forces totalement diverses, dont le seul vrai point commun est d'être anti-Orban. Mais je pense que la mémoire hongroise par rapport à 56 est quand même très complexe. Alors d'abord, c'est vrai qu'Orban, avant de devenir ce qu'il est devenu, était, quand il était jeune, au moment de l'effondrement du communisme en 89, hein, qui a commencé d'ailleurs à la frontière avec l'Autriche. Le jeune Orban, c'était celui qui demandait le départ immédiat des troupes soviétiques et qui était encore un jeune dissident libéral du Fidesz, qui a effectivement très très mal tourné. Ensuite, il y a aussi une mémoire hongroise, parce que l'autre leçon de 56 de la Hongrie, d'un côté, ça a été la révolte héroïque, cette résistance héroïque, les conseils ouvriers, enfin c'est la grande révolution de 56, mais c'est aussi après... le socialisme du goulash de János Kádár, qui prend la succession d'Imre Noy, qui est pendu, et qui dit, voilà, on va s'accommoder avec la Russie, on ne fait plus d'histoire, en échange, on a un bien-être un peu meilleur qu'ailleurs. C'était voilà, la célèbre boutade, c'est la baraque la plus gaie du camp socialiste.
Oui.
Et on laisse un peu sortir les gens, et donc, d'une certaine façon, tout au long des années 70-80, la Hongrie était peut-être le pays... qui faisait le moins d'histoire. Les Polonais, à partir de Jakub Gdansk, 70, ensuite il y a eu la montée de Solidarność, les Tchèques, bon, il y a eu l'écrasement du printemps de Prague, mais il y avait des formes de dissidence massive qui continuaient. La Hongrie était un pays qui, d'une certaine façon, s'était plus ou moins accommodé d'une URSS vieillissante qui ne l'ennuyait pas trop.
Oui, mais alors justement, Jacques Tuntik, pourquoi s'accommode-t-elle aujourd'hui de... la volonté expansionniste russe, alors même que, comme le montre Kundera en 1956, n'a pas eu lieu seulement, et même avant, depuis Yalta, une catastrophe politique, mais véritablement, et il utilise cette expression Kundera, un choc de civilisation. C'était une autre civilisation qui voulait s'emparer de la Hongrie, qui parlait de monde slave et qui intégrait dans le monde slave la Hongrie et la Roumanie, qui vraiment, c'était tous au déflanc slave, mais c'était un détail à l'époque pour l'opinion majoritaire. Alors comment se fait-il que cette angoisse-là n'ait pas été réveillée par l'attitude agressive de Poutine en Hongrie? Parce qu'ici, ils se sont accommodé de l'URSS, mais c'était une URSS calmée. Là, c'est une Russie particulièrement brutale, Jacques Hupnik.
Levons d'abord toute ambiguïté sur la présumée sympathie pro-russe d'Orban. Non, il n'y a pas de russophilie chez les Hongrois. Ils connaissent leur histoire. La révolution de 1848 a été écrasée à Budapest par les troupes du tsar. Ils le savent. Et c'est commémoré à Budapest comme 56 est commémoré la deuxième grande révolution démocratique écrasée par les Russes. Donc, ils n'ont aucune illusion là-dessus. Mais ils tirent de 56 l'idée que nous avons été vaincus, la société était vaincue. En fait, le régime avait tiré la leçon. On peut pas détruire cette société, il faut s'en accommoder. Ça, c'est Kádár. Et la société a tiré sa leçon, on peut pas les renverser par la force, parce que tant qu'elle est en Russie derrière. Et donc, ce traumatisme de 56, il joue aussi, il est utilisé, je crois, par Orban, dans l'idée, faut pas s'impliquer dans cette guerre, on n'a pas les moyens, nous faisons partie des petites nations d'Europe centrale, pour reprendre le terme de Kundera, dont l'existence n'est pas assurée, qui sont vulnérables et qui, entre la Russie et l'Allemagne, c'est ça cet espace centre-européen, soit vous êtes dans un empire comme l'empire des Habsbourg, mais s'il n'y a pas d'empire, vous êtes extrêmement vulnérable et vous devez chercher des accommodements. Et donc c'est pas glorieux ce que fait Orban, c'est du cynisme pur. Et il se trouve qu'il fait de nécessité vertu, parce que du coup il nous dit « mais je suis celui qui peut être l'intermédiaire entre l'Europe et Poutine.
l'arrivée de Trump au pouvoir aux États-Unis, mais je suis un interlocuteur privilégié de Trump. Je peux aussi être un interlocuteur entre l'Europe et les États-Unis. Donc, soudain, de cette position peu glorieuse de quelqu'un qui se couche devant Poutine, il tire une vertu de, disons,
de grand médiateur.
Grand médiateur européen, au moment où l'Europe n'a pas grand-chose à dire, semble-t-il, ou peut-être quelques proclamations. Il dit, mais moi, je suis un réaliste, l'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre, je suis là pour servir d'intermédiaire. Bon, tout ça est de la mégalomanie un peu mal placée, c'est du grand cynisme, mais je crois que voilà, faut pas confondre ça avec de la russophilie.
Faut pas confondre avec la russophilie, il n'empêche que c'est faire bon marché de l'indépendance ukrainienne, d'où ma perplexité. Pourquoi n'y a-t-il pas de solidarité plus active avec l'Ukraine de la part de la société hongroise? Et là, je citerai un autre texte moins connu de Kundera. C'est un entretien qu'il a donné à Philippe Roth, qui reproduit dans le volume de Roth « Pourquoi écrire ?». Et Kundera dit, donc nous sommes encore en période de normalisation en Tchécoslovaquie, c'est donné dans les années 80. « Si on m'avait dit, quand j'étais enfant, un jour ton pays sera rayé de la carte, j'aurais pris ça pour une absurdité. C'était inimaginable, l'homme sait bien qu'il est mortel, mais il tient pour acquis que son pays possède une sorte de vie éternelle. Pourtant, après l'invasion russe en 1968, tout Tchèque a dû faire face à l'idée que sa nation pouvait être effacée de l'Europe sans faire plus de vagues que les 40 millions d'Ukrainiens qui ont disparu au cours des 5 dernières décennies dans l'indifférence générale. Ou les Lituaniens, savez-vous qu'au XVIIe siècle, la Lituanie était une nation européenne puissante. Aujourd'hui, les Russes parquent les Lituaniens dans des réserves comme des tribus en voie d'extinction. Ben, la Lituanie a reconquis son indépendance, l'Ukraine veut la sienne, et Poutine, dès avant l'opération militaire spéciale de février 2022, allait répétant « l'Ukraine est un pays artificiel ». Il a même proposé à Tusk, quand il était dans sa première expérience chef de gouvernement, de la partager avec la Pologne. Parce qu'il voulait refonder la grande Russie. Alors tout ça devrait, et je reprends justement la question du début, devrait unir l'Europe centrale au nom de son expérience commune.
Alors, Marc Semo. Ça a été vrai d'une certaine façon en 2022, au moment de l'invasion, au moment de l'agression contre l'Ukraine. Il y a eu une espèce de peur qui a parcouru l'Europe centrale, un peu la Hongrie acceptée à l'époque, qui déjà était quand même, Viktor Orban faisait entendre sa différence, mais il y a eu une conscience de la menace, si vous voulez, il faut faire bloc, et l'Union européenne d'ailleurs a réagi, plus ou même si c'était avec trop de lenteur, plus ou moins comme il me le fallait. Le problème, c'est que depuis, avec cette guerre qui s'enlise, avec la menace russe qui est toujours bien réelle, eh ben on s'aperçoit qu'il y a une coupure. Il y a d'un côté la Pologne, les Pays-Baltes, les Scandinaves, bon, ils ne font pas partie de l'Europe centrale orientale, mais ils sont sur la même ligne, qui disent, voilà, la menace russe est là, il faut absolument se donner les moyens de notre défense. Aujourd'hui, la Pologne est le pays leader en Europe en termes du pourcentage du PIB consacré à la défense, bientôt 4,7%, c'est un record absolu. Et puis, il y a une autre Europe centrale et orientale, qui a, elle aussi, cette conscience que leur existence de petite nation n'est pas assurée, celle de la Hongrie, mais aussi de la Slovaquie, de la Croatie maintenant, avec les dernières élections présidentielles, qui dit, voilà, la menace russe est là, les Américains, finalement, n'iront pas mourir pour nous, donc il faut composer avec la Russie et surtout éviter d'être impliqué dans une guerre qui n'est pas la nôtre. Il y a une phrase là-dessus, d'ailleurs, de Robert Fico, qui est le leader slovaque.
Le leader slovaque, oui.
Alors, qui, lui, à la différence d'Orban, est un populiste qui vient de la gauche. Il a été longtemps, même dans l'international socialiste et dans le groupe socialiste au Parlement européen, avant d'en être viré pour son alliance avec l'extrême droite, qui dit, pour la Slovaquie, l'ennemi, la guerre est toujours venue de l'Ouest et pas de l'Est. Et qui affiche son côté pro-russe.
Qu'est-ce qu'il voulait dire par là?
Il voulait dire que la menace était toujours celle de l'Ouest. Il intériorisait totalement le narratif russe.
Mais l'Ouest, c'est-à-dire l'Allemagne, c'est-à-dire quoi?
Non, mais pas aujourd'hui, mais dans l'histoire.
Dans l'histoire, et donc il dit l'Allemagne plutôt.
Absolument.
Plutôt que la Russie.
Absolument. C'est un thème que l'on retrouve, par exemple, tout à fait en Géorgie. Hein, le rêve géorgien de Ivanichvili a fait campagne tout en truquant les élections massivement, sur le thème « Grâce à moi, vous ne serez pas dans la guerre ». C'est la raison du succès de ce candidat d'extrême droite populiste, Kalin Georgescu, qui est arrivé en tête aux élections présidentielles avec le soutien des Russes et des massifs financements et des massives interventions via TikTok, et ce qui a valu d'ailleurs l'annulation d'élections présidentielles. Et pour cette Europe-là, eh ben voilà, il faut composer.
Il faut composer.
On nous en saura gré. N'importe comment, cette guerre est inutile. Continuer à donner des armes ne fait qu'alimenter la guerre. Il faut arrêter. Et cette coupure est très préoccupante parce qu'aujourd'hui, si vous regardez la carte de l'Europe de l'Est, de ce vent mauvais qui souffle à l'Est, ben on voit que l'Autriche, alors c'est pas l'Europe centrale et orientale dont on te parle, mais ça en fait aussi partie,
quand même,
d'Herbert Kickl, avec cette victoire qui est arrivée en tête des élections de Herbert Kickl, qui dit pas une arme, l'Autriche est un pays neutre, mais ça ne transitera pas par l'Autriche. On voit la Croatie, on voit donc potentiellement la Roumanie, on a vu déjà la Hongrie et la Slovaquie, on voit la Croatie.
Et donc la Croatie est très divisée entre le Premier ministre et le Président,
absolument,
je crois.
Encore. Mais s'il y a cette poussée qui est très forte, d'une espèce d'idée, ben voilà, neutralisme, on reprend le narratif russe, finalement c'est parce que l'OTAN est arrivé trop près des frontières de la Russie
que tout ça
est arrivé, on reprend le narratif russe, y compris sur le thème que les livraisons d'armes ne font qu'alimenter la guerre, etc., etc. Et donc ça, c'est un vrai danger, parce que, je terminerai là-dessus, Orban tout seul, bon, a menacé plusieurs fois le veto pour les sanctions, pour les armes, mais en réalité, à chaque fois, il a composé, à condition que l'on paye grassement, au moment du vote, il allait aux toilettes. Bah, quand vous aurez aujourd'hui une masse de ces pays, 5, 6, voire plus, bah, ça peut bloquer tout ce processus d'engagement de l'Europe aux côtés de l'Ukraine, en un moment où déjà les États-Unis peuvent être tentés, ensuite c'est plus compliqué, mais peuvent être tentés de se dégager. Donc c'est extrêmement préoccupant. Ce vent mauvais qui souffle sur l'Europe est en train de remettre en cause, justement, l'Europe elle-même. La raison pour laquelle, comme vous le disiez en citant ce texte de Kundera et ce télégramme, nous mourons pour la Hongrie et pour l'Europe.
Et pour l'Europe. Oui, alors c'est cette idée que le mal est toujours, la guerre est toujours venue de l'Ouest et pas de l'Est, me laisse un peu désemparé quand même. Et là, j'ai sous les yeux une citation magnifique de Gombrowicz. Il dit « La fin de la guerre n'a pas apporté la libération aux Polonais. Dans cette triste Europe centrale, elle signifiait seulement l'échange d'une nuit contre une autre, des bourreaux d'Hitler contre ceux de Staline. » Au moment où, dans les cafés parisiens, les nobles âmes saluaient d'un chant radieux l'émancipation du peuple polonais du joug féodal, en Pologne, la même cigarette allumée changeait tout simplement de main et continuait de brûler la peau humaine. Donc, on a l'impression que
c'est magnifique.
La peau humaine ne brûle pas de la même façon maintenant dans les pays qui ont pourtant subi le joug russo-soviétique.
Oui, et la Pologne particulièrement a gardé, je crois, ce traumatisme qui est russo-soviétique parce que ça ne remonte pas seulement à la domination soviétique de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a bien sûr toute l'histoire, la partition de la Pologne à la fin du XVIIIe siècle, la Pologne disparaît de la carte. La fameuse phrase « ça se passe en Pologne, c'est-à-dire nulle part » d'Alfred Jarry. Donc, cette idée que les petits États, les petites nations d'Europe centrale sont vulnérables et leur vulnérabilité n'est pas liée à la taille. Ça peut être 10 millions de Tchèques, ça peut être 1 million d'Estoniens, mais ça peut être aussi 30 ou 40 millions de Polonais et ça peut être 40 millions d'Ukrainiens. C'est pas lié au nombre.
Mais c'est ce que dit Kundera dans le concept même de petite nation.
Voilà.
Petite nation, c'est une nation dont l'existence est en question.
Est en question.
Et c'est pas une question de taille.
Voilà. Et c'est des nations, donc, historiquement, qui étaient prises entre la Russie et l'Allemagne, la Prusse. Hein, c'est le partage de la Pologne était ça. Et donc, il y a ce double traumatisme. Et la Pologne, aujourd'hui, tire de cette histoire la leçon, une leçon européenne. C'est-à-dire, l'Europe, ce qui se joue en Ukraine,
est un enjeu pour l'Ukraine, pour la Pologne, pour la sécurité de la Pologne. Quand les Polonais parlent de la sécurité à leurs frontières, c'est leur sécurité en tant que nation. Et ils transfèrent ça à l'Europe. C'est ça le message, disons, de tous à la présidence européenne. L'Europe doit se prendre en charge parce que, justement, la garantie américaine ne suffit plus. Ça a longtemps été ça, en Europe occidentale, chez les Polonais aussi. Mais il y a là, pour la première fois, ils n'utilisent pas le terme macronien d'autonomie stratégique, ils sont prudents, mais sur le fond, ils vont dans cette direction-là. Et vous avez à l'opposé l'autre figure d'Europe centrale qui est Viktor Orban, qui se veut lui aussi leader d'un pôle au sud, comme ça a été dit, hein, qui comprend la Slovaquie. En gros, c'est l'Autriche-Hongrie, hein. Il y a Budapest. Et Budapest et Varsovie, là, ils sont sur la même ligne. Et eux aussi, ils parlent, nous sommes un rempart. Orban a utilisé d'ailleurs ce terme. Mais pas face à la Russie. C'est quand il y a eu la crise migratoire en 2015. Nous sommes le rempart contre la vague migratoire. Nous allons faire la clôture migratoire. D'ailleurs, le président tchèque de l'époque, Zeman, quand il s'est rendu à Budapest, il a remercié l'Hongrie. Voilà, formidable ce que vous faites. Vous êtes le rempart, comme vous l'avez été au XVIe siècle, face aux Ottomans. Et donc, il y a chacun se présente comme centre européen qui est un rempart contre quelque chose.
C'est pas la même chose.
Mais c'est pas du tout la même chose. Et les deux parlent de civilisation. Les gens disent, mais nous sommes remparts contre une submersion migratoire, pour parler comme il est de bon augure aujourd'hui en France. Et les autres disent, non, la vraie menace civilisationnelle, c'est la Russie, c'est l'impérialisme russe. Parce que la Russie représente, voilà, une autre civilisation. Et l'Europe doit, en quelque sorte, faire face à ce double défi et à ces deux visions d'Europe centrale.
Oui, mais justement, ces deux inquiétudes peuvent parfois se conjoindre. La Biélorussie mène contre la Pologne une guerre hybride. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle achemine des migrants vers la Pologne de manière continue. Et ça, c'est l'invasion migratoire utilisée par la Russie elle-même, pour mettre en péril la stabilité d'un peuple frontalier. Marc Sémon.
Absolument. La Russie le fait pour le compte de la Russie.
Bien sûr.
En plus, ces gens arrivent en général via Moscou. Ensuite, ils traversent un bout de Russie. Ils arrivent en Biélorussie. Et la Biélorussie les lance dans la forêt, dans cette forêt primaire qui marque la zone frontalière, vers l'Europe. Ce qui est à la fois totalement cynique. Ces pauvres gens sont ballottés d'un bout entre les deux frontières, dans le froid, dans la faim. Et c'est une manière, justement, de déstabiliser l'Europe, parce que Poutine est parfaitement conscient que la pression migratoire a fait en sorte que le vote populiste a partout monté et que le vote populiste est, dans tous les cas, un vote qui dit la Russie n'est pas notre ennemi, à la fois parce que la Russie et Poutine affichent un certain nombre de valeurs ultra-conservatrices qui sont celles que cultivent volontiers les populistes, et en plus, plus cyniquement, parce que voilà, les sanctions ne servent à rien, les sanctions nous appauvrissent nous plus que la Russie, etc., etc. Il y a tout ce discours qui reprend le narratif russe de toutes les forces populistes, à commencer d'ailleurs par le Rassemblement National en France, qui, rappelons-le, siège dans le même groupe au Parlement européen que Viktor Orban, le groupe des patriotes européens, je crois, qui l'a créé.
Il y a l'extrême droite et puis il y a aussi l'extrême gauche en France.
Il y a aussi l'extrême gauche.
Qui n'est pas particulièrement sensible à la cause ukrainienne, me
semble-t-il. Absolument, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ce qui est là-dessus, d'ailleurs, le plus intéressant, plus encore qu'en France, avec les dérapages de l'ultra-gauche par rapport à la Russie, c'est un mouvement en Allemagne, comme celui de Sarah Wagenknecht, qui mêle le populisme de gauche. C'est un mouvement qui vient de Die Linke, qui est de l'ancien parti communiste est-allemand, donc qui à la fois fait un discours social très dur et qui intègre la dénonciation du phénomène migratoire dans une version très marxienne. Les immigrés servent à faire baisser les salaires, à faire pression sur les salaires, et donc anti-migratoire. Et dans les élections qu'il y a eu ces derniers temps dans les Länder de l'Est, bon, l'AFD, évidemment, a percé, mais souvent, ça a été en deuxième position, le parti de Sarah Wagenknecht.
Et qui est lui-même plutôt pro-russe.
Ah, totalement pro-russe.
Avec un discours. Comme l'AFD, d'ailleurs.
Encore plus, parce que là, en plus, ils reprennent tout le discours classique de l'ex-RDA par rapport à la menace impérialiste et autres, et la paix, et tout ce discours-là. Ce qui est absolument sidérant.
De l'autre côté.
L'impérialisme, c'est de l'autre côté, ce qui est absolument sidérant.
C'est sidérant, mais alors, une question maintenant. Quel est l'agenda du tsar du Kremlin? Il a décidé d'envahir l'Ukraine pour en finir avec ce qu'il appelait un régime nazi, à ses yeux totalement artificiel. Il a malgré tout échoué, parce qu'il n'a pas renversé Zelensky. Même si la paix consacre le statu quo, ce sera une terrible défaite pour l'Ukraine, mais ce ne sera pas une victoire pour Poutine. Mais Poutine, semble-t-il, veut aller plus loin. On le voit avec la déstabilisation par les satellites de la Biélorussie de l'Ukraine. On le voit en Géorgie. On le voit en Moldavie. Il veut reconstituer la Russie tsariste. Quelle est son ambition, Jacques Rupnik?
C'est intéressant que, idéologiquement, il se démarque de l'héritage de l'Union soviétique. Il a même critiqué Lénine pour avoir créé l'Union soviétique, parce que ça créait des États comme l'Ukraine. Alors il trouvait que c'était là le péché originel de la naissance de l'État ukrainien, et donc il récuse ça. Mais il s'approprie l'héritage tsariste, il fait un bon usage de l'Église orthodoxe, et des penseurs qui ont fait la jonction entre l'idéologie de la Russie impériale et de l'anti-bolchevisme. Iline est le plus connu, certains étaient en exil. L'idée eurasienne.
Ah oui, c'est ça.
C'était Berdiaev. Ils étaient à Paris souvent, Berdiaev, Iline, des gens en exil. Et c'est les auteurs aujourd'hui qu'on cite en référence. Donc il y a ce courant-là, une Russie eurasienne qui doit se démarquer de l'Occident. Parce que le grand débat en Russie à la fin du 19e, c'était est-ce qu'il faut imiter l'Occident, rattraper l'Occident? C'était ce que disaient les libéraux, Struve, et ce que disaient les sociodémocrates, les mencheviks. C'était l'idée que la Russie devait se développer. Fallait d'abord atteindre un stade suffisant du capitalisme pour que l'idée socialiste... Et donc, l'option léniniste était... On passe directement du féodalisme au socialisme, et on choisit une autre voie, et ça rejoint donc l'idée de la voie singulière de la Russie, pas d'imitation d'Occident, et nous sommes en quelque sorte entre l'Asie et l'Europe et l'Occident. Nous avons cette voie singulière. Donc on se réapproprie ça. Mais là-dessus, on se réapproprie aussi l'héritage de la Russie stalinienne, la Russie soviétique. La grande guerre patriotique, c'est quand même ça le grand moment qu'ils sont en train de se réapproprier, avec son aspect militaire, bien entendu. Nous sommes invincibles, nous allons conquérir, et nous luttons contre le fascisme. C'est pour ça que la guerre en Ukraine est présentée comme à la fois une guerre de dénazification, et en même temps, une guerre négationniste, puisqu'on nie l'existence d'une nation ukrainienne.
Oui.
Donc il y a ce mélange impérialisme russe et réappropriation de l'héritage stalinien dans la lutte anti-nazi. Et donc ça, c'est, ils appellent ça Ruski Mir, le monde russe. Et la question est de savoir jusqu'où va le monde russe. Au début, on pensait... C'était la version modeste à laquelle je croyais moi-même au départ. Je pensais que il voulait, en gros, prendre le contrôle partout où il y avait des populations russophones. Donc, la Russie est partout où on parle russe. Et donc, il y a 25 millions de Russes en dehors de la Russie, du Kazakhstan à l'Ukraine, en passant, bien entendu, par les Baltes, etc. Et donc, il y avait cette version-là. Mais depuis la guerre en Ukraine et ce que l'on entend maintenant côté russe dans la propagande russe, on est là dans autre chose, dans une véritable logique guerrière du régime. Et c'est là où il y a, je pense, quelque chose qu'on n'avait pas pleinement anticipé. C'est que désormais, la nature du régime est liée à la guerre. C'est la guerre permanente. Il y a le livre de Marie Mandras qui a pris ce titre, La guerre permanente. Et c'est plus la révolution permanente.
C'est donc, la guerre permanente.
La guerre permanente comme façon pour le régime
de renforcer son caractère totalitaire, une espèce de fuite en avant guerrière, et donc les Européens devraient prendre ça en compte. C'est pas seulement la Russie impériale au sens classique, avec laquelle on peut trouver des zones, des sphères d'influence. Non, là c'est la nature même du régime qui pousse à l'impérialisme.
Mais justement, mais guerre permanente contre qui? Ben, jusqu'où va l'esprit de conquête? Les pays baltes sont-ils menacés? Oui. La Pologne est-elle menacée? Donc ça, c'est quand même des questions très concrètes.
L'esprit de conquête va jusqu'à où il peut aller. Ce qui est fascinant dans l'histoire russe du XXe siècle, c'est que c'est le seul empire qui s'est effondré deux fois et qui deux fois s'est reconstitué. Il s'est effondré au moment de la Révolution russe. Ensuite,
oui, c'est vrai.
Staline récupère. Il reprend d'abord, les bolcheviks récupèrent petit à petit toute une partie de l'Empire, le Caucase, etc. Ensuite, avec Staline, ça va encore plus loin. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Empire atteint son apogée en termes territorial. D'abord parce qu'on intègre les pays baltes, mais aussi parce que, via les pays du glacis, il arrive jusqu'à Berlin et au-delà. L'Empire de nouveau s'effondre avec 89. Et là, il est en train de se reconstituer avec une menace explicite. Tout ce qui peut être intégré dans cet empire, dans cet acte de force pure, sera fait. Pour la Russie, pour la pensée russe, ce que reprenait justement la phrase de Fixot, la guerre, l'ennemi est toujours venu de l'Ouest. Les invasions mongoles, c'est
oui,
oublié.
Oui.
L'ennemi est toujours venu de l'Ouest, d'abord parce que c'est là qu'il y a ce monde libéral, ce monde de démocratie, ce monde qui est une menace pour l'existence même du despotisme et de l'autoritarisme de la Russie. Et c'était vrai déjà au XIXe siècle. Et c'est là, pour reprendre une formule de l'historienne Sabine Dulin, que les Russes avaient construit une espèce de, ce qu'elle a appelé dans un livre, la frontière épaisse. C'est-à-dire, il y avait ces pays du glacis qui servaient véritablement de zone tampon par rapport à l'Ouest. Et cette vocation de la Russie, avec Poutine menaçant, elle continue. Et juste pour finir, au moment où il y a eu la conférence d'Helsinki en 1975, où on avait trouvé un modus vivendi. Bah, la Russie était un pays, l'Union soviétique à l'époque, était un pays qui tenait avant tout, c'était de Brezhnev, avant tout au statu quo. C'était un pays en déclin, c'était en crise économique. C'était un pays qui voulait surtout garder ce qu'il avait, rien de plus. La Russie de Poutine est une Russie révisionniste, est une Russie revanchiste, une Russie qui ira jusqu'où elle peut aller. Et il ne faut pas oublier surtout que l'appétit vient en mangeant. Si elle peut reprendre le contrôle de l'Ukraine, elle ira évidemment plus loin.
Alors justement, c'est le paradoxe d'un expansionnisme obsidional.
Absolument.
La Russie a peur, donc elle avance ses pions. Mais il faut ajouter une autre dimension qu'on voit dans les télévisions, dans les émissions de la télévision russe, des menaces à l'égard de l'Occident, du nazisme occidental même, et des menaces de guerre nucléaire. C'est-à-dire qu'au temps de la dissuasion, les uns et les autres se taisaient. C'était vraiment le silence. On savait où on pouvait aller, on ne disait pas un mot. Maintenant, ce discours est repris par Poutine lui-même. Donc, jusqu'où devons-nous prendre cette menace au sérieux? Et peut-être justement, est-ce cette inquiétude qui motive les réalistes de l'Europe centrale en disant « le mieux à faire maintenant, c'est d'apaiser la Russie » Jacques Rupnik.
Exactement. Il y a les deux réactions possibles. Il y a la réaction qu'on a évoquée de ceux qui disent « attention, l'escalade, l'impérialisme ». Et aussi le doute sur la garantie américaine. Je crois que tout ça, ça se renforce. Et donc, trouvant un compromis au plus vite. Et il se trouve aussi que sur le terrain, la reconquête ukrainienne des territoires perdus dans le Donbass ou de la Crimée, c'est pas pour tout de suite, disons-le comme ça. Il y a véritablement, le front est plus ou moins gelé. Et donc, les voix se font entendre pour dire, écoutez, c'est le moment peut-être d'arrêter les frais, ce sera mieux comme ça pour tout le monde. Et peut-être l'arrivée de Trump, alors là, on place des espoirs peut-être exagérés dans la capacité de Trump d'amener les deux parties, non pas à signer une paix, mais sans doute un cessez-le-feu. Et donc ça serait en quelque sorte le modèle coréen. On ferait une ligne de cessez-le-feu. La Russie garderait une partie du Donbass, enfin les territoires de l'Est. Le reste de l'Ukraine pourrait... Alors, Ce scénario-là, on l'entend beaucoup dans les pays que nous avons mentionnés au sud-est de l'Europe, mais pas seulement. Je crois que beaucoup de gens en Allemagne aussi l'entendent. On verra en France l'évolution. Ça n'a pas été le cas jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, c'est l'autre ligne qui a prévalu. Disons, la réaction polonaise, c'est de dire « mais il faut les prendre au mot ». Quand ils disent quelque chose, c'est un peu ce que l'on, la leçon qu'ils ont tirée des années 30 et Hitler. Vous n'avez pas voulu écouter ce qui était dit, mais ils ont fait ce qu'ils ont dit. Eh bien, la même chose avec les Russes, il faut les prendre au mot. Et ça veut dire premièrement la défense, la sécurité. La priorité numéro un de la présidence polonaise, telle qu'elle a été affichée dans les derniers discours, la dernière semaine, c'est sécurité. C'est plus, je sais pas, environnement, ceci ou cela. Non, c'est plus seulement économique. C'est la sécurité, c'est la priorité numéro un. Et ensuite, il y a d'autres priorités qui en découle. Et juste pour terminer, moi je pensais que l'axe véritable de la, j'allais dire de la sécurité européenne ou de la résistance européenne face à l'impérialisme russe, ça pourrait être le triangle de Weimar, Pologne, Allemagne, France. Pourquoi ? Ça me paraissait improbable au début. Macron téléphonait souvent à Poutine, les Allemands parlaient de Zeitenwende. Changement d'époque, mais il faisait pas.
Changement d'époque.
Mais il faisait pas grand chose. Et je disais, il faudrait que la Pologne change de gouvernement. Or, les trois se sont produits. La France a changé sur la Russie.
Ah oui.
Le président Macron a même parlé de déploiement troupes au sol, etc. Les Allemands, non seulement parlent de Zeitenwende, mais ils ont commencé à investir sérieusement dans la défense. Et la Pologne a changé de gouvernement. Donc, nous avons, face à la première version d'accommodement, nous avons un possible axe de résistance qui, pour les Polonais, quand même, méfiant par rapport à ce qui pourrait advenir de l'Allemagne, voire de la politique française, les deux pays sont aujourd'hui affaiblis, on les entend pas beaucoup, du coup on entend plus la Pologne. Alors ça c'est vrai. Mais les Polonais, en même temps, cultivent un axe nordique avec les Baltes, avec les pays nordiques, dont certains viennent de rejoindre l'OTAN, Finlande, grande expérience de l'impérialisme russe, la Suède, qui pendant si longtemps s'est crue neutre, neutraliste, donnant des leçons. Je me souviens, pendant la guerre froide entre l'Est et l'Ouest, oui, vous pensez qu'Est-Ouest, c'est le grand conflit. Non. Nous pensons que le grand problème, c'est Nord-Sud. Eh bien, tout cela est oublié. Et les Nordiques sont là, et il y a les Britanniques qui soutiennent ça. Oui. Et donc, je crois qu'il y a ces deux axes possibles. Weimar, ça peut être l'axe de résistance européen. France, Allemagne, Pologne, c'est quand même sa capacité d'entraînement formidable. Et la variante nordique, peut-être la plus déterminée face à la Russie.
Mais alors, quand même, que penser, je réitère ma question, faut-il prendre vraiment au sérieux la menace nucléaire agitée dans les émissions de télévision russe et par Vladimir Poutine lui-même? La Russie sera-t-elle amenée un jour ou l'autre à utiliser des armes nucléaires tactiques? Il y a un missile dont j'ai oublié le nom, que Poutine décrivait avec gourmandise,
Orechnik, le noisette, ça veut dire noisetier, qui peut à la fois être nucléaire ou conventionnel. Bah, la menace est là, elle a été explicitée. Tout ce conflit s'est fait à l'ombre du nucléaire, parce que si la Russie n'avait pas eu l'arme nucléaire, elle ne se serait pas lancée dans cette guerre, parce qu'elle aurait fini comme Belgrade, au moment du coup de la guerre du Kosovo, en 1999, sous les bombardements. D'un autre côté, c'est parce que les Européens, enfin les Occidentaux, avec l'OTAN, avaient leur parapluie nucléaire, qu'ils ont pu aider l'Ukraine, comme ça s'est fait. Et en cela, cette guerre a été, d'une certaine façon, une des guerres chaudes de la guerre froide, comme il y en a eu tellement, mais pas en Europe, avec cette double dissuasion nucléaire. Ensuite, il y a sans arrêt des chantages, des relances, etc. Cette ombre est toujours là. Bah, pour le moment, ça peut sembler improbable. Il y a eu un instant, au début de la guerre, à l'automne 2022, quand la Russie était vraiment en difficulté, ils ont agité justement l'idée de faire une frappe tactique pour montrer qu'ils avaient ça. Et les Américains ont fait passer le message que si c'était ça, sans utiliser le nucléaire, ils vitrifieraient tous les postes de commandement russes, etc., etc., etc. Et les Russes ont fait marche arrière. Mais cette menace est là. Et oui, on ne peut pas ne pas la prendre au sérieux, même si ce n'est pas le plus probable, d'autant qu'un certain nombre de pays qui sont les alliés de fait de la Russie, dont la Chine, jusqu'à maintenant, toujours dit, pas question de mettre le holà nucléaire. Mais oui, c'est une réalité et ça fait partie de ce que les experts en stratégie maintenant appellent les stratégies désinhibées. Un certain nombre de tabous, qui étaient des tabous qui avaient duré depuis 1945, aujourd'hui ont été balayés. Donc pour le moment, la Russie n'en a pas besoin. Il y a un équilibre des forces qui s'est créé. On va aller probablement sur des négociations autour de ce gel sur les lignes de cessez-le-feu. Mais effectivement, cette ombre portée, effectivement, on ne peut pas la mettre de côté.
On va vers des négociations et ces négociations, l'Amérique risque d'y être présente. Et je voudrais que nous parlions quelques instants de Trump. Pas du phénomène Trump en général, mais de sa promesse. Je vais régler la question en 24 heures. Et des signaux contradictoires qu'il envoie. Parce que, dans un premier temps, on le pouvait le penser très proche de Poutine, très indifférent aux revendications ukrainienne. Et puis là, il a dit que Poutine devrait faire preuve de bonne volonté sous peine de sanctions américaines. Alors, voilà, Trump dans le paysage que vous nous avez décrit l'un et l'autre. Jacques Rupnik.
Alors, il y a deux variantes du Trumpisme tel qu'il est perçu, interprété en Europe centrale. Je vais pas me... Il y a bien sûr... tout ce que l'on voit, les débats en Europe occidentale, et qui concerne surtout le rapport de force économique, l'autonomie, disons, la capacité de l'Europe à résister économiquement. En Europe centrale, ce n'est pas cette question-là qui est posée, c'est la question donc de Trump, peut-il, en quelque sorte, puisque c'est l'homme au discours brut et avec les moyens de pression, est-ce que lui, il peut, des deux côtés, côté russe et côté ukrainien, il a rencontré, d'ailleurs, à Paris, à l'occasion Notre-Dame, ça on peut dire, c'est quelque chose qui a été salué par tout le monde, le fait que le président français ait utilisé la grande cérémonie Notre-Dame pour permettre cette rencontre, et je pense qu'elle a porté quelques fruits. Et donc l'idée c'est, il peut exercer une pression des deux côtés, et donc ce sera pas en 24 heures comme il l'a dit, mais maintenant ils disent ce sera en 100 jours. Bon, on va voir. Ceux qui se prétendent intermédiaires et qui veulent jouer les intermédiaires, il y en a plusieurs. Les Turcs l'ont pensé à un moment donné. Il y a toutes sortes de gens qui se présentent comme ça. Viktor Orban pensait qu'il pouvait jouer les intermédiaires. Bon, Trump a véritablement des moyens. Quand il parle de sanctions, mais déjà elles ont été prises. Je veux dire, on peut inventer de nouvelles sanctions. Et les sanctions, c'est surtout les sanctions européennes. Les sanctions américaines, c'est très, très modeste. Donc, je reste dubitatif. Mais il y a quand même cet espoir chez certains en Europe centrale, surtout le flanc sud, là, dont nous avons parlé, Autriche-Hongrie, si pour aller vite, que Trump va pouvoir régler. Mais il y a aussi un attrait du Trumpisme sur un autre angle. C'est-à-dire que, enfin, arrive quelqu'un qui parle direct, qui ne s'embarrasse pas de précautions oratoires. Et tout ce qui ressemblait à du politiquement correct, etc. Et ça, je remarque ça dans les réactions est-européennes, même chez des gens qui sont, modérés, libéraux, de gauche, l'idée que c'est une sorte de chape de plomb est tombée, je le vois là chez mes interlocuteurs, ils trouvent ça assez salutaire.
Qui c'est, vos interlocuteurs? Qui pensez-vous?
Des intellectuels en Europe centrale, à Prague. Oui, absolument. Même en Pologne, en Hongrie, etc. Donc, il y a cette
idée... Il est cash, comme on dit en français.
Et il y a cette idée que... en Europe centrale, on n'aime pas beaucoup, par exemple, le terme progressiste. Et parce que ça a été...
Ça
fait penser, camarade, est-ce que vous êtes progressiste? Voilà les forces de progrès. Donc tout ce qui est le label progressiste est venu une suspicion. Et puis il y a une deuxième méfiance, c'est tous ceux qui veulent nous imposer un langage ou nous dire ce qui est... disons, conforme au progrès, et il faudrait aller dans ce sens-là, ou qui voudrait même nous rééduquer, par la même. Et alors là, l'idée de rééducation et de...
Oui, tout faut, ça, ça évoque des choses. Souvenirs.
Et donc, je dis ça simplement pour que l'auditeur français comprenne bien que la réception du trumpisme, qui est assez effarante par certains côtés, par sa brutalité, elle est, je dis pas par tout le monde, mais par une partie des gens, y compris de gens qui sont tout à fait pour, tout à fait déterminé pour s'opposer à Poutine, à la guerre, soutien à l'Ukraine, etc. Mais quand on leur parle du trumpisme, ils disent peut-être que ça va quand même ébranler et ça va peut-être modifier le vocabulaire qu'on utilise.
Voilà. Mais ça, Marc, c'était par exemple extrêmement sensible chez les Ukrainiens, avant même que Trump n'ait été élu. Ou déjà à l'été, j'étais à ce moment-là à Kiev, ben, il y avait cette idée que Trump, effectivement, par le cash, eux n'ont pas oublié que, alors qu'Obama avait refusé d'armer l'Ukraine, Donald Trump, en arrivant à la présidence dans son premier mandat, avait notamment autorisé les livraisons d'armes.
Et quel notamment était le motif d'Obama pour refuser d'armer l'Ukraine? Ne pas fâcher la Russie.
Voilà, éviter l'escalade, ça c'est la même logique qu'il avait amené à ne pas faire les frappes
le
à Damas.
Il voulait faire
le RISAC, voilà. Mais alors que Trump donne les javelins, les missiles anti-chars, qui ont été extrêmement utiles pour contrer le début de l'agression russe. Donc il y a ça. Il y a aussi cette idée que Trump pouvait effectivement les brader, mais que Trump aussi, si Poutine le défiait, que si Poutine ne refusait de céder aux pressions pour la reprise de négociations, Trump pourrait être beaucoup plus dur. Pour eux, le pire, ça aurait été cette continuation de la prudence de Biden, qui aurait continué avec des armes, toujours trop peu et toujours trop tard. Donc, il y a eu effectivement ce pari sur Trump. Et dernière chose, Trump ne peut pas se permettre une défaite humiliante pour commencer son mandat. En plus, il veut maintenant rentrer dans l'histoire. Et il y a une conscience, notamment au niveau de Marco Rubio, au niveau de Mike Waltz, ses conseillers en politique étrangère, de l'imbrication des théâtres d'opération, c'est-à-dire ce qui se joue en Ukraine, a d'évidentes et immédiates répercussions au Moyen-Orient avec l'Iran, mais surtout en Extrême-Orient avec la Chine, et qu'une reculade américaine sur l'Ukraine, Xi Jinping saurait très bien ce que ça veut dire par rapport à Taïwan.
Par rapport à Taïwan, oui, ça créera un précédent terrible.
Et comme pour l'administration Trump, la priorité reste la Chine, ils comprennent très bien qu'ils ne peuvent pas faire un accord bradé et sacrifier l'Ukraine.
Donc il y aurait un petit espoir du côté de Trump, malgré la brutalité du personnage, ou peut-être grâce à cette brutalité même, Jacques Rupnik.
Oui, ça c'est donc une hypothèse. Il y avait ceux qui craignaient le lâchage complet. Parce qu'il ne faut pas se méfier, il ne faut pas se tromper. Quand même, son vice-président J.D. Vance, il a dit qu'il faut couper les fonds à l'Ukraine.
Ah oui, quand même.
Et au Congrès, il y a que... C'est vrai, vous avez raison. C'est passé in extremis. Donc, il y a le côté brutal dans la négociation. On exerce une pression des deux côtés, sur la Russie et l'Ukraine. Mais il y a aussi la crainte que derrière, si ça devait échouer, cette stratégie-là, il y a un lâchage de l'Ukraine parce que, comme le dit tout l'entourage de Trump, nous avons d'autres priorités. Donc c'est l'inquiétude qu'il y a par rapport à Trump.
Mais avec la tragédie que justement l'Europe dont on parlait, à cause de ce ventre mou, de cette Europe, de cette route de Hongrie, de cette Europe du Sud et aussi des Balkans occidentaux, risque d'être paralysé ou ne pas pouvoir faire assez pour l'Ukraine.
Oui,
pour l'Ukraine,
l'Europe, du coup, a une responsabilité encore plus grande. Et l'Europe centrale est, en quelque sorte, une partie de l'Europe centrale, surtout la Pologne, la voie de la plus ferme dans la défense de l'Ukraine. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui est en train de se passer entre la Pologne et l'Ukraine. Parce que il y a d'un côté, la Pologne comprend que cet espace qu'elle connaît très bien, nous l'avons évoqué, l'ensemble polono-lituanien, la République des deux nations, les deux tiers de ce qu'est l'Ukraine aujourd'hui, c'est parti de la Pologne,
bien sûr.
Et tout cet espace-là était un espace de rivalité entre la Russie
et la Pologne, qui était une grande puissance. La fête nationale russe, c'est le jour, anniversaire, juin 1610, quand les Polonais ont été chassés de Moscou. Voilà, ça, c'est la fête nationale russe. Donc, il y a cette détermination-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Ukrainiens, à travers la guerre, découvrent la notion d'Europe centrale, pour revenir à notre thème.
Bien sûr.
Il découvre le texte de Kundera. Il découvre tous ces débats que nous avons eus depuis les années 80, où il y avait une espèce de sortie mentale du soviétisme à travers le débat sur l'Europe centrale. Eh bien, les Ukrainiens ont redécouvert, donc, à leur façon, l'Europe centrale. Ils disent, mais nous sommes Européens, nous voulons le dessin, et nous voulons appartenir à l'Europe centrale. Donc, en quelque sorte, l'Europe centrale s'élargit à l'Est. Et du coup, les Polonais, qui avaient plus ou moins abandonné cette discussion, et pas seulement les Polonais, les Tchèques et les autres, plus ou moins abandonné cette discussion sur l'Europe centrale, la redécouvrent. Donc, l'Ukraine penche à l'Ouest, l'Ouest l'immédiat. Le plus proche, c'est l'Europe centrale. Et du coup, avec l'Ukraine, l'Europe centrale s'élargit à l'Est.
Et le centre de gravité de l'Europe bascule vers l'Est. On le voit d'abord sur le terrain de la défense. Aujourd'hui, bientôt, l'armée conventionnelle la plus forte de l'Europe sera celle de la Pologne.
Oui. Et les grandes querelles entre la Pologne et l'Ukraine, les différends, les affrontements, et notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale, sont en effet aujourd'hui dépassés. Merci beaucoup, Jacques Rupnik et Marc Semaux. Alors, Jacques Rupnik, vous publiez un livre en anglais sur Joseph Guttmann. Joseph Guttmann et les destins de l'Europe centrale entre Hitler et Staline. On n'a pas le temps d'en parler, malheureusement. Il est publié à Prague, mais aussi à Chicago, c'est ça? Et Marc Semaux, vous êtes, je n'ai pas eu l'occasion de le dire, chroniqueur à Challenge, et vous avez publié La géopolitique, comprendre le monde de demain aux éditions Talendier. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amar, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui, Julien Bourdet. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Le phénomène Sally Rooney. Mes invités seront Mathilde Brézet et Thomas Télandre. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.